Dieu est enfant de Dieu. Celui qui ne prie pas, il n'est pas vraiment chrétien. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous devons être à l'écoute de Dieu. Mais en même temps, il faut être aussi à l'écoute des actualités. Pour quelle raison? Parce que nous sommes citoyens terrestres et parce que ce qui se passe sur Terre doit nous intéresser parce que ce sont des signes des temps que Dieu nous donne. Et Dieu veut que nous apprenions à discerner ces signes-là. C'est ce qui est dit, hein? Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites, aussitôt, la pluie vient. Peut-être que de nos jours, les citadins que nous sommes, en fait, pour la plupart aujourd'hui, ici peut-être vous êtes moins citadins que ceux de Bruxelles ou ailleurs, mais on est devenu majoritairement citadins. En tant que citadins, qu'est-ce qu'on fait? On écoute la météo, on regarde la météo à la télévision, etc. Mais moi, je me rappelle quand j'étais petit et que j'allais en vacances à la campagne, eh bien, on observait le ciel, hein, pour savoir s'il allait pleuvoir ou non. On n'avait pas la météo. Donc, les gens de la campagne observent le ciel. Oui, exactement, les oiseaux, etc. Donc, ils observent la nature pour savoir s'il va pleuvoir ou s'il ne va pas pleuvoir, s'il y aura sécheresse ou pas sécheresse, quand il faut planter ou ne pas planter, quand il faut récolter ou ne pas récolter. Donc, les gens observaient la nature. Et à l'époque de Jésus, donc, les gens étaient très proches de la nature. Et donc, Jésus dit, quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Jésus n'est pas contre cela, cette observation simple. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? En d'autres termes, ce qui se passe aujourd'hui doit nous interpeller. Ce qui se passe aujourd'hui nous dit un message. Il y a un message de la part de Dieu. Et dans la Bible, nous avons des tas de prophéties. Quand Jésus devait venir sur terre, pour la première fois, il y avait des signes, n'est-ce pas? Et c'est à cause de ces signes-là que des mages, hein, des hommes sages d'Orient sont venus de très loin. Et ils étaient sages, justement, parce qu'ils savaient, eh bien, discerner les signes des temps. Ils savaient discerner les signes des temps. Tous ceux-là qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie, c'était des gens, eh bien, qui savaient discerner les signes des temps. Et quand Siméon a reçu le petit bébé entre ses bras dans le temple, il savait que c'était le Messie. Il avait le discernement. La même chose que Anne. Donc, c'était des gens qui observaient les choses. Quand des choses se passent, ils disent, ah, Dieu avait dit cela. Dieu avait dit cela. Quand nous lisons dans Joël, hein, les prophéties de Joël, il y aura des signes dans le ciel. Jésus nous parle aussi, quand il va revenir, qu'il y aura des signes. Il y a beaucoup de signes. Hein. Et l'un des signes de la fin des temps, la Bible nous dit que ce serait la résurrection de l'État d'Israël. Hein, nous savons qu'en 1948, l'État d'Israël a été recréé. Et il y a beaucoup de signes. Donc, nous devons être à l'écoute de Dieu et aussi être à l'écoute des actualités, parce que nous sommes en attendant sur terre. Ça, c'est le premier point. Être à l'écoute de Dieu et aussi être à l'écoute de l'actualité. Mais le deuxième point, c'est que nous devons faire la bonne lecture. des actualités. Nous devons faire la bonne lecture des actualités. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, quelles sont les actualités dont on rapporte à Jésus? En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Pilate, d'après ce qu'on lit dans l'histoire, est un homme cruel. Et alors, qui étaient ces Galiléens? On pense que ces Galiléens, c'était des rebelles contre Rome. Pilate représentait Rome. Hein, vous savez, à l'époque, c'était Rome qui dominait toute la région. Et ces Galiléens, c'était probablement ce qu'on appelle des zélotes. Vous savez, on parle souvent de deux groupes principaux parmi les Juifs à l'époque de Jésus, les pharisiens, ensuite les sadducéens. Mais il y avait d'autres petits groupes, comme par exemple les zélotes. On pourrait dire c'était les ceux-là qui pensaient que, eh bien, il fallait renverser la domination romaine par la force. Et ils menaient des actions de guérilla, que certains pourraient appeler des actions terroristes. Et alors, des gens posent la question, en fait, ils rapportent à Jésus ce qui se passe. Et probablement, ils pouvaient dire, eh bien, si Pilate a mêlé leur sang avec leur sacrifice, c'est parce qu'ils l'ont mérité. C'est des terroristes. C'est des violents. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Est-ce que c'est vrai, c'est parce qu'ils sont des zélotes qui sont morts? Croyez-vous vraiment cela? Alors Jésus va donner un autre exemple. On lui apporte une nouvelle, lui il donne une autre nouvelle. Les autres étaient-ils déjà au courant? On ne sait pas. Verset 4. Jésus dit, ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Les Galiléens, ces Galiléens, c'était, on peut dire, les zélotes, les violents, les rebelles terroristes. Et qui sont les victimes de la tour de Siloé? Les 18 victimes. Les 18 victimes de la tour de Siloé étaient probablement des travailleurs qui aidait à la construction d'un aqueduc au profit des Romains. On peut dire c'était des collaborateurs pacifistes. Et certains pourraient dire, oh, c'est bon pour eux. Ils collaborent avec l'ennemi. Ils collaborent avec l'occupant. Donc ce qui leur est arrivé, leur est bien arrivé. Et là, Jésus fait la même réflexion. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. En d'autres termes, le fait que quelqu'un meure tragiquement dans un accident, ou qu'il soit sauvé miraculeusement, n'est pas une mesure de sa droiture ou de sa bonté. Le fait que quelqu'un meure tragiquement dans un accident ou qu'il soit sauvé miraculeusement n'est pas une mesure ou une preuve de sa droiture ou de sa bonté. Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis en 2011, Il y a un homme de Dieu qui est mort tragiquement. C'était justement au mois d'avril, je crois. C'était au mois d'avril. Avril 2011. Vous savez qui est-ce qui est mort au mois d'avril 2011? David Wilkerson, oui, voilà. Le fait que quelqu'un meure tragiquement dans un accident, qu'il soit sauvé miraculeusement, n'est pas une preuve de sa droiture ou de sa bonté. Parce que tout le monde doit mourir un jour. Si Dieu nous a épargnés jusqu'ici, c'est par pure grâce. Et parce qu'il a encore une mission pour nous à accomplir. Il a une mission pour nous à accomplir et il veut que nous portions du fruit. Mais maintenant, malheur à nous si nous ne portions pas du fruit. C'est ce que nous voyons dans la suite du passage. Que dit Jésus dans la suite du passage? Lisons maintenant Luc 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Donc, le Seigneur nous a épargnés parce qu'il a un travail pour nous. Amen. Il a un travail pour nous. Et c'est à nous de nous mettre à l'œuvre de produire du fruit pour lui. Et alors on dit, si vous ne produisez pas de fruit, eh bien, on va vous couper. Donc, ne nous préoccupons pas, ne jugeons pas les autres. Ne blâmons pas les autres. Mais que chacun de nous examine sa propre situation avec le Seigneur. Que chacun examine sa propre situation, sa propre marche avec le Seigneur. Ne soyons pas prompts à juger les autres en disant, ah oui, ça lui est arrivé parce que si, parce que ça. Seul Dieu est juge. Amen. Seul Dieu est juge. Nous ne pouvons pas juger quelqu'un. Seul Dieu est juge. Donc, quand des choses arrivent, prions le Seigneur, disant, Seigneur, quel est le message que tu veux nous faire passer? Peut-être que c'est le moment d'évangéliser. Peut-être que c'est le moment, eh bien, de nous réveiller de notre torpeur. C'est peut-être le moment d'une prise de conscience de ce qu'il y a à faire. Peut-être que c'est le moment de ne plus avoir peur de témoigner et de proclamer bien haut la grandeur de notre Dieu et aussi son amour, sa miséricorde. Peut-être que c'est le moment de manifester cette compassion que Christ a manifestée. Et donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre, mais apprenons la leçon pour nous-mêmes et ne pointons pas le doigt sur qui que ce soit, mais disons, Seigneur, que veux-tu que j'apprenne? Qu'est-ce que tu es en train de me dire au travers de ces circonstances? Je suis reconnaissant au Seigneur d'un frère. C'était le 1er août 1993. À l'époque, j'avais le culte l'après-midi. Et je me rappelle, j'arrive pour le culte, et puis il y a un frère à côté, et il y a un frère qui m'a pris à part tout de suite, pasteur, pasteur, pour m'annoncer une nouvelle, parce qu'il pensait que ce serait bien que le pasteur soit au courant quand même. Quelle nouvelle est-ce qu'il m'annonçait le 1er août 1993? Pardon? Non, c'était grave à l'époque. Enfin, grave. Oui, on peut dire grave. Le 1er août 1993, la veille, qu'est-ce qui s'est passé la veille? Le 31 juillet 1993. Eh ouais, le décès du roi Baudouin. Et alors, ce frère me dit, pasteur, viens. Est-ce que tu sais que le roi est mort? Et bon, je suis quand même reconnaissant. Je me suis toujours rappelé de cela. Donc, le frère était délicat. Il dit, avant même que je commence le culte, il m'a pris à part pour m'annoncer la nouvelle. Mais bon, j'avais déjà appris la nouvelle dans la voiture, en général, quand je roule, donc je mets la radio. Et j'avais eu la nouvelle, mais j'étais quand même reconnaissant vis-à-vis du frère d'avoir cette délicatesse de m'avertir avant même de commencer le culte. Et c'était mieux. Donc, on a deux citoyennetés, une céleste et une terrestre. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'illustration de notre frère hier, quand il a dit, hein, une main sur l'épaule de Dieu et une main sur l'épaule des hommes. Et c'est vrai qu'il faut avoir cet équilibre. Hein. Si on n'a qu'une main sur l'épaule de Dieu, on dit bénis-moi, et ça ne va pas. Et si on n'a que la main sur l'épaule des hommes, donc on fait le bien, on fait le social, on s'épuise, on est découragé, ben il faut avoir les deux. Hein. Et donc c'est la même chose. Et je pense que nous devons avoir aussi la vision de Dieu, de sorte que cela qui nous entoure, lorsqu'il nous interpelle, qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Et que pour que nous puissions leur dire, voilà ce que Dieu dit de cette situation. Amen. Quand ces choses arrivent, le Seigneur nous dit, à la fin des temps, les gens deviendraient cruels, irreligieux, ils feront toutes sortes de choses. Hein? Donc qu'on ne faisait, en fait, peut-être qu'on faisait autrefois, mais de manière plus intense ces derniers temps. Hein, l'Apocalypse nous dit, ceux qui sont méchants vont devenir encore plus méchants, et les bons vont devenir meilleurs, les justes deviennent plus justes, les méchants. Et donc, c'est ce qui se passe. Jésus dit qu'il y aurait des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, et donc nous devons pouvoir répondre à ces gens. La Bible nous dit cela déjà. Et vous savez, eh bien, c'est le moment, justement, de se repentir. Et c'est ça le message de Jésus. Repentez-vous. Quand ces choses arrivent, on doit leur dire, repentez-vous. C'est pas le moment de dire, oui, c'est de leur faute. Non, c'est à Dieu de les juger. Mais pour nous qui sommes encore vivants, il est temps de se repentir. Nous avons un message pour les vivants. Les morts, c'est fini. Mais pour nous qui sommes vivants, le message, il faut se repentir. Donc Dieu a un plan pour toi. Si Dieu t'a gardé en vie, donc c'est parce qu'il a un plan pour toi. Et donc maintenant, tu dois te repentir. Le Seigneur a un plan pour toi. Donc nous ne devons pas être comme des gens qui sont indifférents par rapport à ce qui se passe autour de nous. Cela étant dit, on ne doit pas être complètement absorbé par ce qui se passe. Donc, et là, ce serait vraiment grave, hein, si on n'était absorbé que par tout ce qui se passe, donc on deviendrait dépressif, on serait découragé, etc. Donc, mais on a un œil sur Dieu et un œil de ce qui se passe sur la terre. Donc, on peut communiquer le message de Dieu à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Et on dit, voici ce que dit Dieu par rapport à la situation. Parce que la Bible a un mot une parole concernant ce qui se passe. Si ces choses-là nous prennent au dépourvu, pour Dieu, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Je me rappelle après les attentats de Bruxelles, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, et je crois que le dimanche d'avant, j'avais prêché à l'église de Bruxelles, donc le message que j'ai prêché déjà ici aussi, il est minuit, quelqu'un frappe à la porte. Il y a le désespoir, il y a les ténèbres dans le monde. Et j'avais dit aussi, les actes terroristes deviennent banals. Sans savoir que, oui, c'était 10 jours avant que j'avais fait ce message. Et sans savoir que ça allait frapper Bruxelles. Ça allait frapper Bruxelles. Je peux dire que le Seigneur est bon aussi à mon égard par rapport à ce qui s'est passé. Parce que le métro où il y a eu l'attentat, c'est le métro que je prends pour aller au travail. C'est un arrêt avant l'arrêt où est mon bureau. Le bureau de mon travail se trouve à Arlois, juste au-dessus donc de l'arrêt Arlois. Et donc, je passe par Malbec pour arriver à Arlois. Et par la grâce de Dieu, ce jour-là, comme le mardi en général, je commence plus tard, et j'étais allé, je me rendais à Woluwe Shopping Center pour faire ma réservation pour aller à Paris. Et j'arrive, j'approche Woluwe et j'entends dans le haut-parleur, évacuez, évacuez pour votre sécurité, évacuez, évacuez. Donc je n'ai pas même pas pu entrer. J'étais à pied. Et alors j'ai dit, bon, ce que je vais faire, je vais prendre le métro pour aller au travail. J'arrive pour prendre le métro. Pas de métro. Et alors avec mon épouse, on était partis à peu près en même temps de la maison. Et on a communiqué par téléphone et elle me dit, il n'y a pas de tram non plus. J'ai dit à ce moment-là, eh bien, on rentre à la maison. Avant de partir le matin, j'avais simplement reçu une alerte sur mon smartphone disant qu'il y a 2 explosions à l'aéroport. Et j'avais prévenu d'être disant, ça va mal à Bruxelles. J'ai dit ça va mal à Bruxelles, je ne savais même pas que ça allait, ce qui allait se passer. J'ai dit ça va mal à Bruxelles, il y a 2 explosions. Mais je ne pouvais pas m'imaginer l'ampleur des dégâts. C'est quand on est rentré à la maison, on a mis la télé et puis on a vu ce qui s'est passé. Et donc voilà, il y a des choses terribles qui se passent dans notre monde. Et ces choses-là, le Seigneur nous a prévenu qu'il y aurait ces choses-là. Et donc, c'est à nous maintenant d'annoncer le message de la repentance de Dieu. Et de leur dire, repentez-vous. On ne va pas accuser les autres, ceux-là qui ont été victimes, ou à leur dire, bon, parce que si, parce que ça. Mais nous avons un message de repentance et aussi un message d'espoir. Amen. On a un message d'espoir. Que le Seigneur a un plan pour toi, s'il t'a gardé en vie, eh bien, c'est pour quelque chose. J'aimerais terminer avec un petit témoignage personnel. L'année passée, donc comme vous savez, le dimanche de Pâques, en fait le week-end de Pâques, j'étais allé à Paris pour visiter un ami. Pour visiter son église en même temps pour voir un oncle à moi qui venait d'Haïti, qui était de passage en mission à Paris. Il était en mission pendant 2 semaines et je voulais le voir. En fait, il voulait qu'on se voit pendant qu'il était à Paris. Donc, j'ai fait d'une pierre deux coups, visiter mon ami et en même temps pour profiter pour voir mon oncle. L'année passée, j'avais visité cette même église Et après le culte, on a fait appel à moi pour prier pour une dame. Et je suis allé pour prier avec cette dame. On est allé dans une petite pièce. Et la dame racontait une histoire. Mais une histoire horrible, terrible. À un moment donné, j'ai arrêté la sœur. J'ai dit, ma sœur, tu es en train de raconter un rêve. C'est un cauchemar que tu as fait hier soir. Elle me dit, mais non, pasteur, c'est la réalité. C'est quelque chose que je vis maintenant même. Et c'était tellement terrible que je n'ai pu m'empêcher de pleurer. Et j'ai prié avec cette sœur. Et puis, je me rappelle lui avoir dit, écoute, tu as dû prier aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel a un plan pour toi. C'est une des choses que je lui ai dites comme conseil avant de partir. Et alors, cette année, quand je suis retourné donc dans l'église, dans l'église de mon ami, quelle est la première personne que je rencontre quand on entre à l'église? C'est cette dame. Et alors, elle était surprise, elle dit, ah, mais vous, je vous connais. J'ai dit, mais bien sûr qu'on se connaît, puisque j'ai prié avec toi l'année passée. Et là, elle était toute confuse, oh, pardon, pasteur, je m'excuse, etc. Parce qu'après, elle s'est souvenue. Et après, quand elle a repris ses esprits, elle était assise. J'ai dit, ma sœur, ça va? Et c'est là qu'elle me dit, le Seigneur est grand. Le Seigneur répond à la prière. Et elle me dit, le Seigneur fait ça, le Seigneur fait ça, le Seigneur fait ça. Le Seigneur a répondu sur toute la ligne concernant cette difficulté qu'elle avait exposée il y a un an. Et j'ai dit, ah, gloire à Dieu. C'était formidable. Quel encouragement, j'ai dit, avant même de prêcher le message de Pâques, j'ai dit, ah, le Seigneur est grand. Donc, j'avais dit, comme ça, cette dame, le Seigneur a un plan pour toi. Et c'est la réalité. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Donc, si nous sommes en vie, le Seigneur a un plan pour nous. Et donc, maintenant, c'est à nous, donc, de nous mettre en ordre avec lui. Soyons à l'écoute du Seigneur et ne soyons pas indifférents par ce qui se passe autour de nous. Nous n'avons pas un message de condamnation à donner aux autres, mais nous avons un message d'espoir à leur donner et de dire que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 4? Luc 4, je crois, c'est le verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Que le Seigneur soit béni. Amen.